La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.
Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. J'ai la très grande chance aujourd'hui d'accueillir plusieurs personnes qui sont concernées par l'automédication. C'est-à-dire que actuellement, les pouvoirs publics engagent beaucoup à ce que chacun, chacune puisse prendre en main sa propre santé, dans le cadre d'un mot que vous connaissez sûrement, qui est l'empowerment, qu'on pourrait essayer d'expliquer un petit peu plus. Mais cette approche qui consiste à se prendre en charge soi-même conduit à ce qu'il y ait une automédication, c'est-à-dire que les personnes, lorsqu'elles pensent que c'est utile, parce qu'elles présentent quelques symptômes qu'elles connaissent, ou qu'on lui dit correspondre à tel diagnostic, sont tentées de choisir eux-mêmes leurs propres médicaments. Ou bien ceux qui sont en accès direct dans les pharmacies, ou bien ceux qui éventuellement sont recommandés par Internet, voire ceux qui sont recommandés par, sinon le bon docteur Google, l'ami du voisin qui connaît quelqu'un qui, etc. Donc, il m'était apparu important de traiter de cette question, parce que l'automédication, c'est bien, ça peut rendre des services, mais ça n'est pas sans danger, dans la mesure où, par définition, le médicament, medicamentum, c'est à la fois une drogue, un remède, mais aussi un poison, sur le plan étymologique. Et j'ai donc la très grande chance d'accueillir d'une part le professeur Patrick Hillon, qui est spécialiste des maladies du foie. Or, on sait que le foie est un organe qui métabolise, c'est-à-dire qui détruit un certain nombre de médicaments. Et puis, d'autre part, deux personnes qui dirigent le centre de pharmacovigilance de Bourgogne, avec d'une part Aurélie Grandvuillemin et d'autre part Anne d'Autriche. Alors, ceci étant fait, la présentation est un peu sommaire. Je pourrais demander peut-être à chacun, chacune d'entre vous, de se présenter un peu mieux. Donc, honneur aux femmes d'abord. Alors, peut-être Aurélie.
Bonjour à tous et à toutes. Aurélie Grandvuillemin, donc, je suis pharmacien de formation et ça fait maintenant 20 ans que je travaille au Centre Régional de Pharmacovigilance de Bourgogne. On expliquera au cours de l'émission ce qu'est la pharmacovigilance et tout ce qu'il en est par rapport au lien du médicament. Voilà. Et je suis ravie d'être ici et merci beaucoup de votre invitation.
C'est moi, merci. Et Anne ?
Bonjour à tous, Anne d'Autriche. Je suis médecin au Centre Régional de Pharmacovigilance de Bourgogne depuis 25 ans. Je suis également très heureuse de participer à cette émission. Je vous en remercie, Monsieur Didier.
Alors écoutez, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet en prenant déjà la question de l'empowerment. Alors c'est un mot d'origine anglaise qui est parfois un peu difficile à comprendre, sinon que c'est avoir le pouvoir de se prendre en charge quand c'est appliqué à la santé. Alors ce pouvoir est bien sûr très facile à acquérir, mais il n'est pas sans danger. Et ce qu'on pourrait d'abord imaginer, c'est quels sont les facteurs qui ont conduit les pouvoirs publics à favoriser ce type de prise en charge. On peut bien sûr imaginer des facteurs économiques, en disant bah, si les citoyens se prennent en charge eux-mêmes, ça coûtera moins cher. Ou bien encore, les laboratoires pharmaceutiques qui disent bah, « nous, on va pouvoir ainsi favoriser la vente de nos produits ». Alors, est-ce que dans un premier temps, on pourrait essayer de dégager les principaux facteurs qui conduisent à ce qu'on favorise l'empowerment sur le plan des pouvoirs publics ? Qui souhaite répondre là-dessus ?
Je crois que dans la situation actuelle, il y a effectivement un encouragement à la prise en charge un peu autonome par rapport à la difficulté d'accès aux soins en termes de couverture territoriale par rapport en profession médicale. L'incitation à aussi ne pas avoir trop souvent recours pour un point de vue aussi économique par rapport aux frais que cela peut engendrer. Les délais aussi qui peuvent faire dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis aussi la promotion, là, plutôt sur le côté conseil pharmaceutique, avec des pharmaciens qui sont aussi capables, pour certaines situations, d'apporter un conseil pharmaceutique et de conseiller la personne, le patient, pour la prise en charge de symptômes dits plutôt simples, banaux, voilà.
Et puis, alors, le terme est intéressant, enfin, l'épithète est intéressante. Les situations simples, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que c'est qu'une situation simple?
Ça ne va pas être la même chose pour tout le monde, j'imagine, et en fonction du point de vue, qu'on soit patient, professionnel de santé, on n'a pas tous le même point de vue, j'imagine, sur ce qu'est un symptôme simple, et en fonction de ses antécédents aussi, qu'est-ce qu'on va considérer comme simple ou pas.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire par simple.
Simple à identifier et
oui,
à s'auto-diagnostiquer.
J'ai mal à la tête, ouais. J'ai mal au ventre. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la cause de ce symptôme? Et traiter un symptôme sans avoir une idée de la cause, sans avoir un minimum de culture, c'est dangereux. Quand j'étais enseignante thérapeutique à la faculté, on avait écrit un livre sur l'autoprescription et l'automédication, justement à l'usage des gens qui voulaient se traiter, mais c'était un guide des situations où l'on pouvait le faire et des situations où il fallait se méfier. Ça, c'est alors, quand même difficile.
Le terme simple, vous avez eu raison de l'utiliser, parce que c'est celui qui figure sur le site Amélie. Donc, ça veut dire qu'au niveau du pouvoir public, on conçoit que, théoriquement, tout le monde sait ce qu'est un symptôme simple. Or, a priori, on voit que c'est quand même pas si simple que ça. Et qu'il faut avoir quand même beaucoup de précautions pour considérer qu'un mal de tête ou qu'un mal au ventre en particulier peuvent être éventuellement des symptômes pas aussi simples que ça. Alors, est-ce que sur le plan de l'éducation du citoyen, on a un certain nombre de dispositifs qui permettent de mieux comprendre un peu ce qu'est le symptôme simple tel qu'il a été utilisé par Amélie?
L'ouvrage de Monsieur Hidon.
Ce n'était pas le mien, c'était un ouvrage collectif.
Mais on peut peut-être quand même en donner le titre.
Il y a des règles. On a mal, on peut prendre un antalgique que l'on connaît, qui n'est pas trop dangereux. Et le problème, c'est que si le mal perdure, si d'autres symptômes apparaissent, il faut certainement un avis spécialisé, un avis médical.
Dans le terme simple, il y a effectivement simple à détecter, à identifier, simple en termes de co-symptômes, c'est-à-dire présenter plusieurs symptômes en même temps. Là, on n'est peut-être plus dans quelque chose d'aussi simple. Et puis, je crois que dans le principe des définitions sur effectivement les sites de la sécurité
officielle,
sociale,
ouais.
De Amélie, les sites officiels, il y a aussi ce qui est fondamental, c'est la durée.
C'est ça.
Et je crois qu'un symptôme qui dure de façon inhabituelle, ou même si on en a l'habitude, mais que ça dure vraiment longtemps, là, on n'est plus dans quelque chose, à mon avis, de simple, effectivement.
Donc, deux éléments importants, c'est d'une part la durée, et d'autre part, l'association éventuelle d'autres signes qui apparaissent et qui rendent compte du fait que c'est déjà plus compliqué qu'il peut y paraître. Très bien, donc voilà déjà une première chose qui est un peu mieux formulée. Est-ce qu'on a des statistiques qui permettent d'évaluer actuellement quelle est l'importance de l'automédication? Autrement dit, est-ce qu'on sait dans l'ensemble du public s'il y a beaucoup de personnes qui recourent à l'automédication et dans quelles conditions? Anne, peut-être alors?
L'automédication représenterait environ 7,6% du marché pharmaceutique. Quand on étudie un petit peu les résultats de certaines publications.
Et pour compléter, il y a une étude effectivement qui avait été faite, une enquête en 2023 par l'IFOP, et qui estimait qu'à peu près 90% des Français avaient déjà eu recours à l'automédication. Alors, c'est simple, hein, c'est prendre effectivement pour un mal de tête un paracétamol ou autre chose. Donc, je crois qu'autour de la table, je pense qu'on est peut-être même à 100%. Et puis, surtout, il y a une très grande augmentation ces dernières années. Ils avaient estimé dans cette enquête que sur les 20 dernières années, donc, il y avait une augmentation de 30% de recours à l'automédication, donc, ce qui est quand même assez notable. Et il est estimé qu'en moyenne, d'après les personnes qui avaient répondu à ce sondage, 8 personnes sur 10 avaient eu recours à une automédication dans l'année précédente.
Alors c'est beaucoup. Est-ce que dans ces conditions, on peut avoir des statistiques qui rendent compte du fait que le développement de l'automédication s'accompagne d'une diminution de la consommation des consultations médicales.
Là, personnellement, je n'ai pas de données sur le sujet, si ça a été vraiment mis en parallèle, mais...
Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'effectivement, si l'automédication s'implante de plus en plus, logiquement, il doit y avoir moins de consultations médicales?
Pas forcément si on reste sur des symptômes simples. Après, c'est peut-être juste une augmentation de la médicalisation. Malheureusement, en France, on est quand même assez réputé pour être des personnes qui avons vite recours à un médicament pour n'importe quel problème dans notre vie par rapport à d'autres pays. Ça, c'est assez bien démontré. Et peut-être qu'il y a une consommation de médicaments là où il n'y aurait pas forcément eu de recours à une consultation médicale. Donc ça, je ne sais pas si le parallèle peut être fait de façon aussi simple.
Aussi simplement,
simple.
Oui. Oui, peut-être, Patrick.
On doit tenir compte dans la réponse de la difficulté dans de nombreuses régions à trouver une consultation médicale rapide. Et je crois que ça peut aussi expliquer
l'augmentation de l'automédication. Avec l'augmentation de l'appel au 15 pour finalement, entre guillemets, de la bobologie.
Probablement.
Probablement.
Je pense que c'est la grande facilité, le 15, parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver maintenant une consultation. Il n'y a plus pratiquement de médecins généralistes qui prennent de garde de nuit. Enfin bon, donc il y a une ouverture là qui...
Alors si on se place maintenant dans la condition pratique de l'automédication, le choix du médicament qui va être utilisé, il peut être lié soit à un usage antérieur, ou à partir d'un même signe, d'un même symptôme simple. On avait pris tel médicament, on avait eu une ordonnance avec tel produit, donc il y a une similitude et l'intéressé va reproduire la même pratique. On peut aussi imaginer que c'est un conseil qui vient d'un ami, qui vient de l'ami d'un ami, qui vient d'un voisin ou qui vient du bon docteur Google. Tout ça reste quand même un peu inquiétant parce que ça veut dire que le médicament qui est pris de cette façon-là comporte quand même un certain danger. Même si c'est un médicament qu'on a déjà utilisé, qui est dans sa pharmacie familiale, mais qui est peut-être périmé ou qui n'est peut-être pas du tout indiqué. Est-ce que ces situations-là, vous, en pharmacovigilance, que vous surveillez de près, est-ce que c'est une situation qu'on rencontre souvent? Est-ce que les accidents sont fréquents?
Alors, je pense que malheureusement, il y a une sous-notification et peut-être pas assez de mise en contexte dans des prises médicamenteuses. Donc, nous, ce n'est pas des situations sur lesquelles on est amené à se pencher.
Sous-notification,
souvent.
C'est-à-dire?
Ça veut dire qu'on ne nous remonte pas les situations qui posent problème dans ces contextes-là. C'est-à-dire que le principe de la pharmacovigilance, c'est effectivement de faire remonter les problématiques liées aux médicaments, que ce soit des effets indésirables, des erreurs médicamenteuses et... des problématiques qui concernent le médicament de façon spontanée, c'est-à-dire que les gens vont nous appeler, que ce soit des professionnels de santé, des patients. Et par rapport à l'automédication, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de situations où un professionnel de santé, un médecin, un pharmacien ou un patient lui-même va nous contacter pour nous dire « j'ai pris ça de mon propre fait et j'ai présenté tel problème ». C'est vrai que ce n'est pas quelque chose...
Tu vois que Anne a envie d'ajouter quelque chose.
Lorsqu'on est interrogé sur un effet indésirable médicamenteux, l'automédication fait partie de l'interrogatoire que l'on fait au patient. Et ça, je pense que c'est un élément très important, c'est-à-dire qu'on demande au patient s'il prend en automédication, s'il a pris en automédication un médicament, parce que souvent c'est une information qui peut échapper au médecin généraliste qui suit son patient ou au pharmacien qui pourrait être amené à donner des conseils sur d'autres médicaments. Et je pense que c'est un élément très important de faire préciser au patient tous les médicaments qu'il prend lorsqu'il est en situation, lorsqu'il présente un symptôme qu'on n'explique pas et qu'on se pose la question du rôle du médicament dans la survenue d'un effet indésirable.
Avec comme conséquence pratique de bien recommander à chacun ou à chacune, lorsqu'il y a un incident qui apparaît, de ne pas oublier de signaler qu'il a une automédication avec tel ou tel produit qui peut lui paraître anodin parce qu'il l'a pris déjà, mais qui en réalité peut être très dangereux. C'est un élément important de l'enquête.
Tout à fait.
Et même sans problème, c'est fondamental qu'un patient, quand il vient consulter un médecin ou qu'il arrive à sa pharmacie, qu'il signale la prise, soit passée récente, soit actuelle, d'un produit en automédication, que ce soit un médicament, ou on en parlera peut-être au cours de l'émission, des compléments alimentaires ou d'autres produits. Même si la question n'est pas posée, il faut vraiment toujours avoir ça en tête et le dire. S'il consulte un médecin, bah, c'est important de dire, bah, voilà, j'ai mal à la tête depuis une semaine, j'ai pris pendant 4 jours, 5 jours, tel médicament ou tel produit, parce que ça peut fausser l'évolution des symptômes, ça peut masquer d'autres symptômes, et pour la prise en charge, il me semble que c'est fondamental de jamais oublier ça.
Que la personne peut avoir le sentiment que ça n'est pas quelque chose de très dangereux, dans la mesure où c'était un produit d'accès direct à la pharmacie. Est-ce qu'on pourrait préciser un peu cette question de l'accès direct à certains médicaments, sans ordonnance, qui souhaite intervenir ?
Alors, effectivement, sur les médicaments disponibles à l'automédication, il y en a deux types principaux. Il y a effectivement les médicaments en accès direct. Donc, dans une pharmacie, on peut aller se servir directement. Et les médicaments qui sont, on va dire, achetables, sans ordonnance, mais qui vont être plutôt derrière le comptoir de la pharmacie. Donc, le choix de ces médicaments, c'est les pouvoirs publics, hein, les autorités de santé qui font des listes.
Et sur quels critères?
Alors, sur les critères essentiellement de toxicité, c'est-à-dire qu'en théorie, les médicaments en vente libre ou sans ordonnance sont censés être peu toxiques dans les conditions normales d'utilisation.
C'est-à-dire donc, qu'ils peuvent le devenir en association avec d'autres.
Ou même tout seul. On prend l'exemple du paracétamol. Dans les conditions normales d'utilisation chez un patient qui n'a pas certains problèmes de santé, et un médicament qui a un risque tout à fait acceptable. Mais dans certaines situations, et là, je me tournerai vers le spécialiste, le paracétamol peut avoir des conséquences dramatiques s'il est utilisé, on va dire, en dehors des clous.
Alors, qu'est-ce qu'en pense le spécialiste ?
Ah oui, je pense que pour le paracétamol, c'est bien sûr le foie, parce qu'il a une toxicité hépatique. C'était même le mode de suicide des petites Anglaises pendant très longtemps, qui avalait la boîte de paracétamol. Et il est vrai que quand on a une maladie chronique du foie, avec en particulier une insuffisance hépatocellulaire, la tolérance du paracétamol sera bien moindre et beaucoup plus dangereuse.
Et dans ce cadre-là, alors, est-ce qu'il faut prévenir les gens que ça n'est pas parce qu'un produit est d'accès direct qu'on ne peut pas quand même demander conseil? Et là, c'est le pharmacien d'officine qui a le rôle majeur, qui n'est pas simplement un vendeur, mais qui est un conseiller technique auquel on doit se référer. Oui ?
Oui, je pense qu'en fait, il y a des médicaments en accès libre, mais qui peuvent présenter un risque important. Je pense notamment aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.
C'est-à-dire en dehors de la cortisone, pour être simple.
Qui, dans un contexte, une situation particulière comme la grossesse, présente un risque majeur et deviennent contre-indiqués, notamment à partir de la 24e semaine d'aménorrhée. Donc, en fait, il y a des médicaments...
Aménorrhée, c'est-à-dire la disparition
des règles. Donc, ce sont des médicaments... c'est la situation... le contexte qui fait que le médicament devient dangereux alors qu'il serait très bien toléré hors contexte de la grossesse.
Donc une règle qu'on pourrait retenir et un conseil qu'on pourrait donner, c'est si vous avez la possibilité d'acheter un médicament en accès direct sans ordonnance, demandez quand même à votre pharmacien son avis, surtout si vous avez déjà d'autres produits que vous prenez et qui risquent éventuellement d'interférer. C'est un conseil important et ne pas prendre comme ça, parce que c'est en disposition libre, n'importe quoi.
Alors, le paracétamol et les anti-inflammatoires qu'on vient de citer, comme l'ibuprofène, voilà, ne sont pas en accès direct. Hein. Ces médicaments, il a été un moment, c'est des médicaments, pour le coup, ceux-là sont derrière le comptoir et on demande au pharmacien, bonjour, je voudrais une boîte de paracétamol. Et là, le pharmacien doit faire son rôle de professionnel de santé de dernière ligne, à dire, c'est pour vous, pour quelle situation, rappeler les doses, éventuellement, est-ce que vous présentez une maladie du foie qui viendrait à contre-indiquer ce médicament ou à limiter la dose par jour ou par prise.
Alors, est-ce qu'il y a des produits en accès direct qui sont dangereux?
qui peuvent être dangereux pour certains patients et dans certaines situations.
D'où le conseil. Si vous prenez un de ces médicaments en accès direct, renseignez-vous de toute façon auprès du pharmacien d'officine pour savoir, en fonction de votre situation particulière, de ce que vous avez déjà comme traitement, si y a un risque ou pas. Bon, ça, c'est un conseil qu'on peut donner.
Systématique, qui s'applique à tout.
Donc, c'est parfait.
C'est parfait. Au revoir.
Et bon, en particulier
à la grossesse. On va continuer quand même. On va continuer quand même parce qu'il y a des médicaments qui sont donnés sur ordonnance et qui sont renouvelables, avec renouvelables une fois. Est-ce que ce type d'ordonnance conduit à ce qu'une deuxième fois, les patients pourraient quand même utiliser la prescription d'origine pour continuer à prendre ce médicament? Auquel cas, il y a un risque majeur. Est-ce que c'est possible?
Alors oui, les médicaments prescrits sur...
avec une ordonnance, avec la mention renouvelable, voilà. Une fois.
Donc effectivement,
au-delà, est-ce que c'est possible?
Ça peut être possible pour des médicaments, pour parler techniquement de liste 2, qui sont médicaments sur prescription, mais qui peuvent être renouvelés jusqu'à un an. Donc oui, mais là, on n'est plus dans de l'automédication, puisqu'on va demander forcément aux pharmaciens le renouvellement de l'ordonnance. Donc ce renouvellement doit s'accompagner d'un conseil et de questions. Pourquoi vous souhaitez renouveler cette ordonnance? Donc là, on n'est plus dans de l'automédication, puisqu'il y a l'intervention d'un professionnel de santé au moment de la délivrance de ce produit.
Est-ce qu'il y a alors des ordonnances qui sont mentionnées non renouvelables? Est-ce que dans ces conditions, le pharmacien d'officine a la possibilité de ne pas distribuer le médicament correspondant? Est-ce que cette situation existe?
Alors, à ma connaissance, ce n'est pas une mention officielle des ordonnances.
Enfin, moi, je n'ai jamais utilisé cette formule.
Très bien. Donc là, on peut quand même avoir une certaine garantie.
Du moment où un médicament doit être délivré sur une ordonnance, il y a forcément l'intervention en dernier recours du pharmacien par rapport à la délivrance de ce médicament.
Alors, si on en vient maintenant, des médicaments qui ne sont pas achetés chez le pharmacien, mais qui sont acquis sur Internet. Quelle est la réglementation aujourd'hui qui limite la possibilité d'accéder à ce type de produit ?
Alors, l'Organisation mondiale de la santé avait indiqué qu'environ 50% des médicaments étaient vendus sur Internet étaient falsifiés.
Donc c'est énorme.
Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à
falsifiés, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas couverts par la sécurité des preuves pharmacologiques qui auraient pu être fournies. C'est des médicaments qui sont soi-disant efficaces, mais dont on ne sait même pas la composition, c'est ça?
C'est ça, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on achète.
Ah oui. Donc là, il y a vraiment un très grand danger à recourir à ce type d'acquisition.
Tout à fait. En revanche, en France, ce qu'on peut dire, c'est que l'Ordre national des pharmaciens mettent à jour sur son site une liste de contacts, de sites de pharmacies qui peuvent vendre des médicaments en ligne. Mais tout cela se fait dans un cadre bien précis qui répond au code de la santé publique.
En fait, les autorités régionales de santé autorisent des pharmacies sous certaines conditions à vendre des médicaments sur leur site internet, donc le site internet de la pharmacie. Donc toutes les pharmacies ne peuvent pas le faire, elles doivent avoir une autorisation de l'Agence régionale de santé. Et effectivement, comme l'a dit Anne, on peut consulter sur le site de l'Ordre des pharmaciens les pharmacies autorisées à vendre en ligne des médicaments.
Donc on va chercher sur le site du Conseil de l'Ordre des pharmaciens les produits qui peuvent être achetés
vendus en ligne.
En, en pharmacie.
Bah, on peut vérifier, par exemple, si on fait une recherche sur Internet et qu'on voit un site qui vend des médicaments, on peut aller revérifier si
s'il est autorisé à ça.
Il est autorisé à ça.
Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui ne sont pas alors sur cette situation-là, et c'est d'après ce que Anne nous dit très fréquent, on peut acheter finalement n'importe quoi, y compris des produits très toxiques.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est possible.
Au pire, c'est inefficace. On achète de la poudre de perlimpinpin. Oui. Au mieux, j'ai envie
c'est
de dire au mieux,
risque.
C'est le moindre risque. Et au pire, on peut avoir effectivement des composés toxiques. Et ça peut être des médicaments falsifiés, c'est-à-dire qu'on a une boîte de médicaments avec un nom commercial qui est très connu et qui est, voilà, où on pense qu'il est la composition qui est affichée sur l'emballage. Et en fait, à l'intérieur, ça peut être tout et n'importe quoi. Et on n'a aucune garantie du contrôle, ne serait-ce que de la qualité du produit. Et puis derrière, effectivement.
Avec parfois, sinon le même nom, le même aspect,
oui,
la même couleur.
Une vraie contrefaçon.
Voilà. Oui. Et ce type d'approche a quelques chances d'être un jour réglementé ou ça va à volo ?
À l'international, c'est très compliqué de contrôler ce qu'il y a sur Internet. Les sites ne sont pas forcément implantés en France, donc c'est tout le problème de l'achat sur Internet. Et effectivement, ce contrôle-là est très très compliqué à faire. Je pense que les autorités de santé peuvent agir si un site ou une pharmacie, soi-disant pharmacie, est amenée à vendre des médicaments et qu'elle n'est pas autorisée. Mais je pense que la plupart des sites ne sont pas forcément français. Le contrôle est très, très, très difficile. Mais on a déjà eu des patients qui étaient à l'hôpital avec avoir acheté des produits sur Internet et savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça peut expliquer la maladie qu'a le patient? C'est très, très, très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut faire analyser le produit dans un laboratoire qui est capable d'analyser, mais on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, savoir quel produit, on va dire, malveillant a été mis dans le médicament acheté, c'est très, très compliqué.
Donc, chères auditrices, chers auditeurs, deuxième conseil, après avoir demandé le conseil du pharmacien d'officine, surtout n'achetez pas comme ça, n'importe quand, n'importe comment, n'importe quel produit, même si c'est, pour les hommes en particulier, les petites pilules bleues. On peut dire ça comme ça. Alors, dans la mesure où il y a des risques, il y a des dangers, est-ce qu'on peut essayer de faire un peu le point sur ces dangers? On comprend que l'automédication soit quand même utile, d'abord parce que ça peut être mis en route très vite, parce qu'on peut ne pas avoir à se déplacer dans les conditions qu'on connaît où les consultations médicales, par ailleurs, peuvent de temps en temps poser questions avec des déserts médicaux. Donc on voit les avantages, avec aussi un avantage peut-être plus personnel, c'est le sentiment que la personne a de se gérer elle-même et de ne pas avoir besoin d'un « sinon », entre guillemets, d'une domination médicale. Mais d'un autre côté, il y a des risques. Alors, ces risques de l'automédication, est-ce qu'on en a une idée? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que vous, en pharmacovigilance, vous avez des connaissances, non seulement d'effets indésirables, mais parfois des effets beaucoup plus graves que ça et qui conduisent jusqu'à la nécessité d'hospitalisation dans des conditions graves? Est-ce qu'on a une idée là-dessus?
Alors, en 2018, le réseau des centres régionaux de pharmacovigilance a mené une étude et estimait qu'environ 212 500 patients par an étaient hospitalisés dans des services de court séjour pour des effets indésirables médicamenteux.
C'est vraiment beaucoup, hein. Ah oui,
pas en automédication, sur les effets indésirables.
Indépendamment de l'automédication. Enfin, alors peut-être que parmi ces patients, il y avait des patients hospitalisés dans le cadre d'automédication, mais d'une manière générale, à peu près 12 500 patients étaient hospitalisés et on estimait que 16,1% de ces effets indésirables étaient évitables. Ce qui est quand même un pourcentage important.
Évitable.
C'est 212 000.
212 000, pardon.
Ah bon, Ah oui. Là, ça change tout quand même. Parce que c'est vrai que ça paraissait déjà beaucoup, mais là, c'est quand même énorme. Hein. Et ce volume aussi important correspond à certains types de médicaments. Il y en a plusieurs qui sont plus volontiers toxiques que les autres. On a cité tout à l'heure les anti-inflammatoires. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Dans cette étude-là, c'était beaucoup les anticoagulants, les nouveaux anticancéreux par voie orale, notamment, qui sont pris en ville. C'était les principales classes médicamenteuses. Après, sur les médicaments disponibles en vente libre, que ce soit en accès direct ou sur le principe de l'automédication, on retrouve des effets indésirables liés au paracétamol, aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, que ce soit dans des contextes d'usage volontairement détourné, ce qu'on peut appeler aussi du mésusage. Et puis, il y a eu, il y a quelques mois ou années maintenant, des challenges qui étaient sortis sur les réseaux sociaux de prendre le plus de paracétamol possible. ça avait fait quand même pas mal de bruit dans les médias.
Et pourquoi ça avait été conseillé ?
C'était des challenges, en fait, pour savoir qui finirait à l'hôpital, qui en prendrait le plus sans finir à l'hôpital.
Des jeux de fous ?
Oui, des jeux... des jeux un petit peu dangereux, on va dire, ouais. Parce que là, c'est vraiment jouer avec la vie, tout simplement. Et ça avait fait, c'était un buzz un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi tous ces médias qui peuvent banaliser l'utilisation de certains produits, voire les rendre soi-disant ludiques. Mais là, ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. Donc,
alors, un nombre aussi important, 212 000 d'accidents, alors que pourtant, les effets indésirables sont aujourd'hui assez bien connus. La mise sur le marché exige un nombre d'expérimentations considérables. Et où, en principe, ces effets indésirables devraient tous être connus. En pharmacovigilance, vous trouvez encore des effets indésirables qui ont été relativement peu signalés dans les fiches, par exemple, ou par les industriels ?
Alors, c'est même l'objectif premier de la pharmacovigilance, identifier les nouveaux effets indésirables peu connus ou pour lesquels on n'avait pas forcément d'informations très précises sur la sévérité ou la présentation clinique. Donc, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est la détection, ce qu'on appelle de nouveaux signaux de sécurité. Donc, ça peut être effectivement des nouveaux effets indésirables, des nouvelles situations à risque, populations à risque. Et puis tout ce qui est dans le giron de l'erreur médicamenteuse, la mise en évidence de situations qui peuvent conduire à des erreurs médicamenteuses, et dans le domaine de l'automédication avec toutes les gammes ombrelles, on appelle ça, qui existent, c'est-à-dire un nom de marque qui se décline sur plusieurs produits différents avec des...
Vous voulez dire gamme ombrelle, c'est-à-dire que c'est des produits qui...
Qui ont le même nom, mais qui peuvent se décliner avec des sous-noms et qui ont des compositions différentes et on peut facilement les confondre les uns avec les autres. Et puis des produits qui présentent des emballages totalement similaires. Là, c'est dommage, hein, on n'a pas d'image, mais des produits qui ont un emballage avec des couleurs très, très, très similaires et pourtant une composition et des indications très différentes. Voire des médicaments qui ont le même nom qu'un complément alimentaire, juste le sous-titre du nom est différent et la composition est pour le coup totalement différente. Donc ça, c'est toutes les situations qui méritent.
Me montre des images qui sont spectaculaires. Hein. Les emballages sont quasiment identiques. Hein. Voilà. Et, donc et ça, en plus, parfois même écrit un peu en petit, ce qui fait qu'on peut très bien se faire avoir, entre guillemets. Hein.
Et ça, on a des signalements. Et là, on encourage les patients, les personnes qui ont connaissance de ce type de produit et avec un risque, effectivement, de confondre, à vraiment faire remonter ces informations-là. Et donc, au centre régional de pharmacovigilance, on peut centraliser tout à fait ces informations et les faire remonter aux autorités.
Comment c'est permis de pouvoir mettre comme ça sur le marché des produits qui sont des leurs ?
La liberté d'entreprendre. Donc c'est pour ça qu'après, ces situations-là doivent être remontées aux autorités de santé pour inciter les firmes à modifier leurs emballages, voire changer le nom des médicaments pour éviter qu'ils se ressemblent trop.
Une fois que vous, en pharmacovigilance, vous avez cette information, comment vous pouvez la transférer aux usagers ?
Alors nous, on la fait remonter à l'agence du médicament, qui, elle, a pouvoir de police sanitaire. Donc, elle peut prendre des mesures auprès des laboratoires pharmaceutiques pour éventuellement changer l'emballage, comme vous le voyez ici, ou changer le nom, potentiellement, du médicament. Nous, notre rôle en local, c'est pour ça que c'est l'avantage d'avoir un réseau régional de pharmacovigilance. On peut communiquer vis-à-vis des usagers, des professionnels de santé, via, on a un bulletin d'information qu'on édite 3 ou 4 fois par an. Voilà, on peut communiquer aussi en local et faire passer les informations. Mais le plus important, c'est que ces situations-là s'arrêtent et qu'il y ait des décisions qui soient prises. Mais si personne ne fait remonter ce type de situation...
Oui, c'est gravissime. Anne, vous aviez quelque chose à avancer.
En fait, je voulais revenir sur ce que tu disais, Aurélie, tout à l'heure, sur les... pour donner un exemple de médicaments, de molécules commercialisées sous des noms différents. Si on veut avoir un exemple, prendre un exemple, le paracétamol qu'on utilise très fréquemment est commercialisé sous la forme de Dafalgan, sous la forme de Doliprane. Et parfois, les patients ne savent pas forcément que Dafalgan et Doliprane, eh bien, c'est du paracétamol. Et la conséquence, c'est de possibles surdosages et, comme disait M. Hillon, un risque d'hépatotoxicité. Donc, effectivement, certaines molécules peuvent être commercialisées sous des noms de marques différents. Donc, il est toujours très important de savoir ce qu'il y a, de connaître la composition des médicaments. Et pour connaître la composition des médicaments aussi, c'est bien de se référer à la notice du médicament.
Alors, si on en vient à la notice, il y aurait quand même beaucoup à dire. Hein. D'abord, ces notices sont d'un accès parfois difficile, écrit en tout petit, avec plusieurs langues. Ça représente des papiers volumineux sur lesquels on ne s'y retrouve pas. Et où manifestement, par expérience, je peux dire que beaucoup... d'utilisateurs ne lisent pas ces fiches. Donc, on a l'impression qu'il y a une information qui a été donnée, et on est tranquille, on a donné l'information, mais en réalité, elle n'a pas été exploitée. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être amélioré? Parce que ces prospectus, entre guillemets, sont vraiment d'un usage qui est très mal commode. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire mieux que ça?
Alors, au niveau de l'accès, par rapport au papier, là, l'Agence du médicament commence une expérimentation de notices dématérialisées avec un QR code qui sera sur les boîtes, ce qui permettra un accès électronique. Déjà, si on perd la notice, ce qui arrive de temps en temps, qu'une boîte se retrouve sans sa notice, au moins, on pourra toujours accéder à la notice. La version électronique permet peut-être de naviguer de façon plus facile que sur un gros, on va dire, un papier. Et puis il faut savoir aussi que si on perd la notice ou effectivement si c'est écrit trop petit et qu'on a quelques difficultés mais qu'on n'est pas réfractaire à l'informatique, on peut accéder à toutes les notices des médicaments sur un site qui s'appelle la base de données publique des médicaments, qui est un site officiel du ministère de la Santé où on retrouve toutes les notices des médicaments. Ce qui permet encore une fois de naviguer peut-être plus facilement et de rechercher des mots clés éventuellement dans la notice et d'accéder peut-être plus facilement à la dose recommandée, aux contre-indications éventuelles ou aux effets indésirables si on se pose des questions. Donc il y a un accès dématérialisé possible déjà actuellement et qui sera facilité avec ce QR code. Mais ça reste fondamental avant de prendre tout médicament, même si c'est un médicament sur prescription, de revérifier les doses. Les contre-indications éventuelles, est-ce que finalement je suis pas, j'ai pas une situation qui m'amène à contre-indiquer ce médicament, et puis si je me pose des questions sur les effets indésirables, effectivement de regarder dans la notice si ça peut.
Donc
être
un troisième conseil qu'on peut donner, le premier, adressez-vous à votre médecin d'officine avant d'acheter n'importe quoi. Le deuxième, faites attention à l'assemblage de plusieurs médicaments qui peuvent entraîner des inconvénients et n'achetez pas n'importe quoi sur Internet. Et puis le troisième conseil, c'est de consulter cette base. Vous pourriez rappeler l'adresse?
Alors c'est la base de données publique des médicaments. On y accède via un moteur de recherche. On ne va pas faire de promotion pour le monsieur que vous avez cité tout à l'heure, mais sur n'importe quel moteur de recherche. En tapant base de données publique des médicaments, c'est le premier site qui arrive. Donc c'est un site assez... simple d'utilisation, parce qu'il y a une barre de recherche, on tape le nom du médicament qui nous intéresse et on a accès à la fois à la notice et à la fois, pour les professionnels de santé, au résumé des caractéristiques du produit. Donc c'est un document encore moins compréhensible pour un patient que la notice, avec un langage beaucoup plus technique, mais qui permet de retrouver toutes les informations sur le médicament. Et on a aussi des informations issues de la Haute Autorité de Santé. Enfin, on peut avoir tout un tas de compléments d'information si on s'intéresse aux médicaments qui sont vraiment précises et surtout officielles, mises à jour. Contrairement à d'autres sites où on peut trouver des informations similaires mais qui ne sont pas forcément à jour. Et dans ce domaine-là, ça change très vite.
Très bien. Alors, on dit souvent que les personnes âgées sont un peu gênées par l'accès dématérialisé. Internet n'est pas forcément la meilleure façon de procéder et QR code non plus. Est-ce que dans ces conditions, on ne peut pas imaginer que le pharmacien d'officine aurait la possibilité, au moment où il délivre les médicaments, une ordonnance, prévenir la personne qu'ils peuvent éventuellement avoir accès à cette base en leur montrant comment on fait, parce que là, un problème d'éducation, est-ce que ça ne vous paraît pas être un élément supplémentaire qui valoriserait encore davantage la profession de pharmacien, qui parfois, malheureusement, est souvent considérée comme étant un marchand de produits?
Ça pourrait tout à fait être proposé, une démonstration. C'est vrai que les emballages aussi des médicaments évoluent, où il y a peut-être, c'est bien des fois et pas trop des fois, des informations sur les boîtes qui mettent en garde hein, par rapport à la grossesse, un petit pictogramme ou sur la conduite automobile ou ce genre de choses. Donc il y a aussi des informations sur l'emballage de la boîte hein, qui est important aussi de regarder. Puis le pharmacien peut être aussi amené à écrire la posologie sur la boîte ou ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un échange qui peut se faire. C'est souvent ce qui est fait, mais il ne faut pas perdre la boîte après. Surtout si on met dans les piluliers, dans les petites boîtes. Donc si on déconditionne effectivement le médicament, qu'on le sort, on n'a plus cette information-là. Mais effectivement, la démonstration de cette base... Bon, je comprends que pour les personnes qui n'ont pas forcément un accès à Internet facilité ou une aisance par rapport à la recherche sur Internet, c'est effectivement...
Merci.
Mais il y a toujours le papier.
Donner cette information sur cette base de données qui est un conseil particulièrement utile. Patrick ?
Moi, j'avais une question pour nos deux expertes. On n'a parlé que de médicaments, mais qu'est-ce qu'on doit penser des traitements par herboristerie, est-ce que c'est impliqué dans certaines pathologies
Les compléments alimentaires aussi ?
Les compléments alimentaires.
C'est un nouveau grand domaine, les compléments alimentaires. Alors, stricto sensu, les compléments alimentaires ne rentrent pas dans le domaine de la pharmacovigilance. On est vraiment spécialiste du médicament. Mais il faut savoir qu'il y a une structure qui existe, qui s'appelle le service de nutrivigilance, qui dépend non pas de l'Agence du médicament, mais de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité de l'environnement, de l'alimentation, sécurité au travail, je ne sais plus exactement le sigle de l'ANSES, mais c'est un service national.
Vous rappelez peut-être les initiales.
Alors ANSES, A-N-S-E-S, donc c'est une agence nationale. Et ce service de nutrivigilance surveille justement tout le domaine des compléments alimentaires, puisqu'effectivement c'est un domaine qui explose depuis plusieurs années. Le nombre de produits qui rentrent dans cette catégorie est vraiment très important et ça touche tout type de produits. On a des vitamines, potentiellement des plantes, des algues, des champignons, voilà, tout un tas de produits qui vont couvrir tout un champ de la médecine. Hein. On va avoir des produits destinés aux problèmes digestifs, de sommeil, santé de la femme, c'est aussi un domaine... qui est en pleine expansion, et c'est des produits qui peuvent aussi être dangereux en eux-mêmes, c'est-à-dire être responsable d'effets indésirables, être dangereux en association avec d'autres, avec des interactions avec soit d'autres compléments alimentaires ou des médicaments. On dit toujours, c'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas sans risque. On connaît plein d'exemples de plantes, de champignons qui sont très beaux mais très toxiques. Donc c'est pas parce que c'est une plante qu'on a aucun risque. Donc là encore, il est hyper important de se renseigner, de demander conseil. Il y a la plante, pour le coup, c'est pas de la phytothérapie, c'est une plante médicinale, c'est un médicament, hein, le millepertuis, qui est utilisé pour traiter tout ce qui est syndrome dépressif. Possède un potentiel d'interaction médicamenteuse très important.
Et le plus commode pour avoir l'information ?
Demander à son pharmacien.
Voilà.
C'est la personne centrale sur tous les produits et même les compléments alimentaires qui ne sont pas forcément disponibles que dans les officines. On peut en acheter dans les grandes surfaces ou dans des boutiques à droite à gauche. Il faut se renseigner. il ne faut pas toujours croire ce qui est écrit sur les boîtes, les allégations, on appelle ça les allégations d'indication, où c'est écrit « soigne », voilà. Il faut savoir que les compléments alimentaires, c'est... il n'y a pas d'études réalisées de façon solide, robuste, pour prouver leur efficacité, autant que pour un médicament qui arrive sur le marché, il doit répondre à des conditions et le laboratoire doit montrer des résultats d'études qui montrent son efficacité et une toxicité acceptable. Les compléments alimentaires, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc l'efficacité, elle est supposée, elle est présentée comme... voilà. La toxicité, elle n'est pas aussi bien étudiée et maintenant, heureusement, elle est de plus en plus surveillée. Donc on apprend de plus en plus de choses. Hein, parce qu'il y a des médicaments qui donnent des effets indésirables hépatiques majeurs. Hein, on pourrait en citer quelques-uns. On a déjà eu des soucis à l'hôpital quand on travaillait avec M. Hillon. Et puis, ou des médicaments qui sont toxiques pour le rein, ou voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir conscience et se renseigner, ne pas toujours croire ce qui est écrit sur la boîte.
Alors, un appel du pied a été fait, là, Patrick, en ce qui concerne les effets toxiques. Les organes qui sont le plus exposés à un effet toxique du médicament, on a parlé du foie qui casse le médicament, qui le métabolise. Il y a le rein qui l'élimine. Le cerveau, vraisemblablement, qui doit aussi pouvoir être affecté. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques infos là-dessus?
Le cerveau, je ne sais pas. Non, je pense que le foie est une cible.
Quand je pense aux champignons, par exemple, le champignon hallucinatoire, c'est quand même quelque chose. Hein.
Le foie est une cible à la fois de toxicité, mais aussi, s'il est insuffisant, de surdosage. Le rein, lorsqu'il est atteint, c'est le risque de surdosage. Et donc là, on est dans des conditions où on va avoir un surdosage médicamenteux à cause de...
Parce que le rein élimine insuffisamment.
Oui. Ou le foie, ou le rein, oui.
Est-ce qu'il peut y avoir des effets toxiques sur ces organes, c'est-à-dire qu'ils détruisent?
Ah bah oui, on a parlé des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je pense que le rein... L'atteinte rénale est quand même non négligeable avec ce type de médicament. Le paracétamol en surdosage sur le foie, mais il y a beaucoup, beaucoup de médicaments toxiques pour le rein et pour le foie.
Très bien, on arrive donc à la fin de cette émission et on a vu déjà un certain nombre de conseils pratiques qu'on peut donner à nos auditrices, à nos auditeurs pour être quand même très raisonnable quant à l'automédication. Est-ce que vous voyez quelques règles qu'il faudrait également signaler pour que l'automédication soit un bénéfice et non pas un risque?
Je pense qu'on a dit au début de notre échange, c'est effectivement savoir aussi s'écouter par rapport à ces symptômes. Est-ce qu'ils sont, on a dit au début, simples? C'est-à-dire, est-ce que c'est des symptômes que j'ai l'habitude de présenter en termes de gravité, de fait, est-ce que j'ai d'autres symptômes associés? La durée est fondamentale. Je crois que quand on a un symptôme qui dure plus longtemps qu'attendu, alors c'est là où qu'est-ce qu'il y a une durée attendue, c'est tout le problème, ou qui ne passe pas alors que d'habitude, en prenant un paracétamol, voilà, j'ai plus du tout mal à la tête, mais là, j'ai un mal de tête avec une envie de vomir, la lumière me fait mal. Ou, voilà. Donc, s'il y a des symptômes vraiment qui sont totalement inhabituels, là, il faut franchir le cap de dire c'est plus de mon domaine et je m'adresse à un professionnel de santé, je vais voir, je prends rendez-vous auprès de mon médecin et tout ça. Ça, c'est vraiment ne pas savoir s'écouter et puis se dire à un moment, là, c'est plus ce qui est attendu, quoi. Et puis après, se renseigner sur ce qu'on achète, comme vous l'avez dit.
De façon à éviter à ce que l'automédication soit irresponsable, puisque c'est un article qui vient d'être publié il y a peu de temps et qui attire l'attention sur le fait que s'automédiquer, c'est bien. Ça donne l'impression qu'on peut se soustraire à l'imposition médicale, mais néanmoins... Il y a des risques, il y a des dangers. On vous a donné un certain nombre de conseils, chères auditrices, chers auditeurs. Suivez-les du mieux que vous pouvez. Et en vous remerciant de votre écoute et en remerciant ces spécialistes qui ont bien voulu m'accorder de leur temps pour vous parler de ces problèmes importants, je vous remercie et vous dis bonsoir.
Merci, au revoir.
Merci.
Au revoir.
La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.